Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 6 mai, nous apprenons le décès d'Alain Galliano, décédé brutalement vendredi alors qu'il était en Italie. Il siégeait dans le groupe Les Progressistes à la métropole de Lyon, c'est surtout l'ancien maire de Craponne. Dans l'actualité également, un nouveau maire à Mions, Mickaël Paco. Polémique autour des sans-abri à Lyon. L'Institut Transition organise à la métropole lundi prochain la journée de la transition professionnelle, écologique et solidaire. Objectif, aider chacun et chacune à avancer dans son évolution professionnelle afin de redonner du sens à son travail et trouver comment agir pour un monde meilleur. Pour en parler, nous recevrons dans ce quart d'heure lyonnais Martin Durigneux, cofondateur de l'Institut Transition. La ville de Lyon promet de multiplier les opérations de contrôle des cyclistes et des usagers des trottinettes. Et puis l'Olympique Lyonnais qui se déplace ce soir au stade de Pierre-Mauroy pour y affronter le LOSC à 21h.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. À 77 ans, Alain Galliano est décédé brutalement vendredi. Il était en Italie. Il siégeait dans le groupe des progressistes à la métropole de Lyon. L'élu était surtout connu dans l'ouest lyonnais. Il a été maire de Craponne de 89 à 2020, mais également vice-président de la métropole sous Gérard Collomb. Énarque et diplômé d'EM Lyon, Alain Galliano a effectué une partie de sa carrière à l'international, aux États-Unis, en Asie et en Europe. Dans l'exécutif de Gérard Collomb, il était chargé des relations internationales et de l'attractivité. Sandrine Chadier, la maire de Craponne depuis 2020, décrit un maire bâtisseur et visionnaire qui a œuvré avec conviction pour sa commune. Les obsèques d'Alain Galliano auront lieu lundi prochain à 14h30 à l'église Saint-Fortunat. On apprend également la mort de l'animatrice de télévision Géraldine Carré, décédée à 54 ans. La raison de sa mort n'a pas été communiquée. Native de Lyon, Géraldine Carré avait notamment présenté l'émission Confession intime dans les années 2000 sur TF1. Elle avait débuté à la radio sur Europe 2 à Lyon, puis elle avait travaillé pour L'Onde Latine à Marseille. Sa carrière prendra ensuite une dimension nationale sur Paris Première ou encore TF1. Mickaël Paco, 40 ans, jusqu'alors adjoint délégué à la sécurité, est le nouveau maire de Mions. Il prend la relève de Claude Cohen après la démission de ce dernier suite à des insultes antisémites. Claude Cohen reste conseiller municipal et conseiller métropolitain.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Polémique autour des sans-abri à Lyon. 170 femmes et enfants qui tentaient de trouver refuge au gymnase d'Argent dans le 8e ont été empêchés par la police municipale, aidés par la police nationale. Dans le groupe, 70 enfants, une dizaine de bébés et plusieurs femmes enceintes. La décision de procéder à l'évacuation a été prise par le maire et les élus. La police nationale a été réquisitionnée. Une expulsion qui a choqué et déçu les collectifs de soutien. Une cinquantaine de personnes se sont réunies sous les fenêtres du maire Grégory Doucet samedi matin, pointant toutes les prises de position du maire écologiste sur l'accueil et l'hospitalité et le soi-disant plan zéro enfant à la rue, une priorité du mandat. On ne peut pas transformer tous nos gymnases en hébergement d'urgence, répond Sandrine Runel. Le rapport de force doit être envers l'État et non envers la ville qui a déjà beaucoup fait, explique l'adjointe aux solidarités. Les élections européennes se préparent, elles auront lieu, je le rappelle, le 9 juin. Ambroise Méjean figure parmi les 30 premiers noms de la liste Renaissance menée par Valérie Ayer. L'ancien candidat aux législatives à Villefranche serait 20e sur la liste. En 2022, il avait été nettement battu par Alexandre Portier, LR. L'Agence régionale de santé met en place une surveillance renforcée encore cet été en ce qui concerne le moustique tigre. Objectif, prévenir le risque de transmission des maladies dont il peut être le vecteur, comme la dengue ou le chikungunya. Pour éviter sa prolifération, il est recommandé de vider ou de couvrir les objets contenant de l'eau, coupelles, pneus usagés, jouets, récupérateurs d'eau de pluie, mobilier de jardin ou piscine non entretenue. L'ARS invite aussi les voyageurs en zone intertropicale, notamment en Martinique et Guadeloupe, où sévit une épidémie de dengue, à suivre les recommandations sanitaires. Pendant le séjour, se protéger au maximum contre les piqûres de moustiques tigres. Sur place et au retour, au moindre symptôme, consultez un médecin en lui précisant votre récent séjour.
Lyon Demain, idée en partage.
Bonjour Martin Durigneux.
Bonjour Gérald Bouchon.
Vous organisez la journée de la transition professionnelle écologique et solidaire. Ça se passe le 13 mai prochain, c'est à la métropole. Expliquez-nous le principe de cette journée.
Le but de cette journée, c'est de permettre à des personnes qui sont en quête de sens professionnel, qui ont commencé à se poser des questions, qui ont commencé à évoluer, d'avoir un temps fort où ils vont pouvoir rencontrer des acteurs, avoir des ateliers d'accompagnement, avoir des conférences inspirantes, des conférences où on peut poser toutes ces questions pour évoluer dans leur vie professionnelle vers des métiers ou des missions qui sont au service d'une société écologique et solidaire. Et c'est pour nous, un temps de tremplin où plein d'activités différentes vont pouvoir accompagner des personnes à différents stades de leur cheminement, où chacun y trouve un peu son compte pour se mettre en mouvement et trouver sa place ou une place dans laquelle on est réellement utile face aux grandes urgences écologiques et sociales.
Les études montrent que 4 actifs sur 10 envisagent de bifurquer, de changer d'emploi. Pour quelles raisons? Quels sont les motifs?
On va dire pour celles que nous on connaît ou celles que nous on adresse avec nos dispositifs, on a une variété de personnes qui sont, comme je disais, en quête de sens, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont choisi un boulot souvent dans le cadre de ce qu'on appelle un parcours de non-choix, ou en tout cas de parcours où on ne s'est pas toujours posé toutes les questions ou toutes les bonnes questions. On est un peu guidé par le système scolaire, par la famille, par les opportunités, et qui à un moment ou à un autre, soit se confrontent à eux-mêmes en disant « c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'apporter au monde dans ma vie ». Soit on a des gens qui sont plutôt dans des boulots qu'ils aiment bien, mais qui se retrouvent confrontés à les urgences écologiques et sociales, qui voient aux infos, qui voient dans des reportages, qui lisent dans des bouquins, qui voient quand ils entendent, quand ils écoutent des personnes comme Cyril Dion, comme Jean Covici ou autres, et qui se disent « mais c'est pas possible que moi j'y contribue pas, c'est pas possible qu'alors que c'est le plus grand défi que notre civilisation ait jamais rencontré, moi je sois là sur un boulot qui certes me plaît plutôt bien, mais où je suis pas vraiment utile, alors que là il y a des urgences absolument décisives qui m'appellent et qui ont besoin de moi ». Donc on a un peu les deux, on a vraiment des gens qui vont chercher à se reconnecter à eux dans cette changement de vie professionnelle, cette évolution professionnelle, et on a des gens qui vont se connecter aux grands défis et agir face à eux. Et parfois on en a évidemment qui cumulent les deux, on va dire. Mais c'est un peu les deux tendances qu'on peut retrouver et qui peuvent amener ces actifs à chercher à changer de boulot et à agir. Et il faut noter quand même, c'est toujours important, qu'il y en a quand même potentiellement 6 sur 10 qui ont des boulots où ils trouvent du sens, ils trouvent leur place, parce qu'il y a encore plein de boulots qui ne sont pas des boulots de la transition écologique et solidaire, qui ont du sens. On a besoin d'enseignants, on a besoin de policiers, on a besoin de médecins, on a besoin de soignants, on a besoin de plein de personnes. Par contre, potentiellement, ils peuvent avoir des enjeux à intégrer, des enjeux de transition écologique et solidaire, ce qui est aussi un enjeu de la journée, sur quelques temps, sur des personnes qui ne vont pas changer radicalement de voie, mais qui vont intégrer les enjeux de transition écologique dans leur vie professionnelle, dans leur métier, dans leur mission au quotidien.
Alors avec Anciela et avec cette journée de la transition professionnelle, vous entendez bien sûr ouvrir un petit peu le champ des possibles de ces personnes qui s'interrogent en particulier. Comment va se dérouler cette journée et quels sont les principaux invités sur lesquels on va pouvoir compter pour essayer de changer son horizon professionnel?
Cette journée, elle est organisée autour de différentes activités. Elle est organisée par l'Institut Transition en partenariat avec Anciela, avec une dizaine d'autres acteurs de transition professionnelle et des transitions écologiques et solidaires, qui vont en fait nourrir un grand ensemble d'activités. Donc on peut les classer en 4 catégories. Il y a les temps de conférences, avec des conférences qui sont plutôt des conférences inspirantes, avec des sujets comme transition écolo, il y a du boulot, avec des témoignages d'entreprises et d'associations qui embauchent des personnes et qui pourront parler un peu de c'est quoi les boulots dans ces associations et ces entreprises qui embauchent. Il y a changer de vie professionnelle, mode d'emploi, il y a se former à ses nécessités, des fresques et des outils pour se mettre en mouvement. On a des conférences qu'on appelle interactives, où là c'est plutôt on va poser toutes ces questions et cheminer soi-même avec en fait une sorte de guide de questionnement sur est-ce que je dois rester dans ma structure pour la faire bouger, ou est-ce que je dois en partir, est-ce que je peux entreprendre, est-ce que je peux me lancer, comment imaginer le monde de demain et comment j'y contribue, avec un atelier des 2030 glorieuses animé par Julien Vidal. Donc ça c'est la première grande catégorie. La deuxième grande catégorie, c'est les ateliers introspectifs, où là c'est vraiment des ateliers pour se plonger en soi, travailler son parcours d'évolution professionnelle, son processus d'évolution professionnelle, avec des professionnels d'évolution professionnelle comme Transition Pro Aura, l'APEC, le CIBC, Connaissances ou Ressorts, qui vont venir apporter leur expérience, leur expertise. Il y en a d'autres que j'ai pas cités, sur des ateliers avec des identités un petit peu différentes à chaque fois. Donc chacun peut aller puiser dans ce qui l'intéresse. On a un troisième grand espace qu'on appelle les témoignages métiers, où là c'est vraiment d'écouter sur sept sujets des témoignages de professionnels qui agissent sur ce sujet. Donc on a la réinsertion professionnelle dans une perspective de transition écologique et solidaire, la réparation et la fabrication artisanale et écologique, l'agriculture et les métiers de la terre, l'alimentation écologique et la cuisine, le conseil en évolution professionnelle, en éco-conception, en analyse du cycle de vie. Donc voilà, des sujets. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir entre 2 et 3 témoins qui viennent raconter comment ils vivent leur métier, les enjeux qu'il y a derrière, les formations qu'il faut potentiellement faire, les difficultés qu'ils rencontrent, les plaisirs qu'ils trouvent, pour qu'en fait les personnes puissent se projeter potentiellement dans ces métiers. Et enfin, on a un dernier espace qu'on appelle l'archipel des solutions, où là c'est des stands avec une variété d'acteurs, parmi lesquels Anciela, où il y aura les petites annonces de bénévolat, il y aura le guide, il y aura le magazine, pour découvrir les acteurs de la transition écologique. Donc là, en fait, on a cet archipel est réparti en trois catégories. Trouver sa voie avec l'Institut Transition et Transition Pro, se plonger dans le monde de la transition, donc avec Ancilla, mais aussi avec The Greener Good, la Maison d'Environnement, la Chambre Régionale d'Économie Sociale et Solidaire et d'autres. Et engager son évolution professionnelle avec des acteurs que j'ai déjà cités, mais dont la vocation, c'est de venir accompagner le parcours d'évolution. Et donc, cet archipel des solutions, c'est pendant toute la journée l'occasion d'aller parler avec des personnes et puis d'avoir des occasions de rencontrer des acteurs et de voir ce qu'ils peuvent m'apporter, moi, dans mon évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est cet acteur-là avec qui je viens de discuter pourra m'apporter, à quel endroit il se trouvera dans le cheminement qui est le mien, quoi. C'est un peu comme ça que ça va s'organiser. Donc, en gros, plein de conférences, ateliers, témoignages et quand j'ai un peu de temps pendant mon cheminement, d'aller dans cet archipel de solutions pour rencontrer du monde.
Pour conclure, quelles sont les limites, je dirais, de cette transition professionnelle? Est-ce qu'on peut faire un virage à 180 degrés dans un parcours professionnel, sachant qu'il y a toujours le problème, effectivement, des qualifications en particulier?
On peut toujours accomplir un virage à 180 ou à 360 degrés, potentiellement se transformer radicalement. C'est pas pour autant qu'on doit toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de personnes qu'on accompagne. Donc, Institut de Transition, nous, on a une formation qui s'appelle Nouvelle Voie. On accompagne des personnes en évolution pro sur un an à mettre leurs compétences et leur énergie au service de la transition écologique et des solidarités. Ce qu'on observe souvent, c'est des personnes qui vont venir souvent changer le métier, garder des compétences fortes qu'ils ont acquis dans leur métier. Parfois, ils gardent le même métier. Souvent, ils changent de métier, mais ils gardent les compétences. Ils gardent les expériences. Ils gardent une partie des expertises, souvent celles qui sont transversales, celles de chef de projet, coordinateur, coordinatrice, animateur, animatrice, des compétences un peu transversales qu'ils ont acquises, parfois des compétences aussi techniques qu'ils ont acquises, qu'ils vont réinvestir dans leur nouvelle vie professionnelle. L'image un peu, pour moi, caricaturale de devenir berger dans le Larzac, aller élever des chefs dans le Larzac, comme on disait à une époque, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est très chouette que des personnes se lancent dans cette vie-là, s'ils y aspirent. Mais il y a plein d'autres manières d'agir pour une société écologique et solidaire, sur des modes de fonctionnement, des modes d'action, des modes de vie, beaucoup plus comparables avec ce que les personnes avaient pu connaître si elles venaient pas de ces métiers, ces milieux-là. C'est d'ailleurs un des buts de ces témoignages métiers, que de leur permettre de voir s'ils sont vraiment prêts à se lancer dans l'agriculture, par exemple, ou se lancer dans l'épicerie, ou de devenir expert en éco-conception ou en bilan carbone, parce qu'en fait, derrière ces métiers, il y a des réalités. Parfois, elles collent tout à fait à ce qu'on a envie de vivre, parfois pas du tout. Et c'est intéressant d'avoir des occasions de s'y confronter d'abord par témoignage. On peut même aller jusqu'à une immersion pro qui va permettre d'y aller. Mais aujourd'hui, pour moi, on a besoin de plein de monde sur des fonctions de compétences transversales. Un de mes combats, entre guillemets, souvent sur... c'est d'accompagner les gens à se dire, en fait, que t'étais à la com ou t'étais chef de projet. En pratique, c'est des expériences dont on a, et des compétences dont on a besoin dans plein de structures porteuses de la transition et des solidarités. C'est pas être dommage de les abandonner. Et donc, ça m'arrive souvent de réconcilier des personnes avec le marketing en leur disant, ces compétences-là, elles ont de la valeur. Elles vont pas être appliquées exactement pareil que quand tu bossais dans une grosse boîte du CAC 40. Par contre, elles ont de la valeur et tu vas pouvoir les appliquer au service de structures, associations, entreprises et même institutions publiques qui portent réellement la transition. Donc, pour moi, le 360, c'est possible, ou le 180, c'est possible. C'est pas nécessairement souhaitable, ni pour la personne, ni pour la société. Si ça doit l'être, tant mieux. Si ça doit pas l'être, il faut pas. Il faut choisir un mode de transition beaucoup plus proche parfois de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a envie de faire.
Voilà, transition professionnelle, mais transition raisonnée. Ce sera notre conclusion, Martin Durigneux. Le rendez-vous, c'est la journée de la transition professionnelle, écologique et solidaire. C'est à la Métropole de Lyon et c'est le lundi 13 mai. Il vaut mieux s'inscrire, en tout cas, sur le site de l'Institut Transition.
C'est même tout à fait obligatoire parce qu'on a un nombre limité, pas pour les grandes conférences, il y a de la place, mais pour pas mal d'autres activités. Et du coup, il vaut mieux s'inscrire même assez vite parce qu'on en a qui sont déjà remplis.
Merci Martin.
Bonne journée.
La ville de Lyon va multiplier les opérations de contrôle des cyclistes et des usagers des trottinettes. En un peu plus d'une heure, vendredi après-midi, la brigade cycliste a contrôlé 11 personnes, 8 cyclistes et 3 EDPM, autrement dit des trottinettes. 12 procès-verbaux électroniques ont été dressés. Personne n'échappe au code de la route. C'est le message que veut faire passer la ville de Lyon. L'unité cycliste de la police municipale est composée de 17 agents. Elle mène des opérations de contrôle tous les jours à travers la ville. Le chemin de Charbonnières, qui relie Charbonnières-les-Bains à Écully, est rouvert à la circulation, à sens unique désormais, dans le sens Écully vers Charbonnières. Cette voie a été sécurisée pour permettre la rencontre des usages. Un muret en pierre sèche a été réalisé pour soutenir le talus qui s'était effondré en 2016. L'accès sera fermé aux automobilistes du samedi soir au dimanche soir, toutes les semaines.
Lyon Demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon Demain, accessible partout, même dans les tunnels.
L'Olympique Lyonnais se déplace ce soir au stade Pierre-Mauroy pour y affronter le LOSC à 21h, à moins de 3 semaines de la finale de la Coupe de France, disputée elle aussi à Lille. Le championnat, comme la Coupe, peut emmener l'Olympique Lyonnais vers l'Europe. Après le succès de Rennes samedi, l'équipe lyonnaise est repassée à la 9e place. À noter la domination du LOSC face à l'Olympique Lyonnais depuis quelques années. Une seule victoire lyonnaise lors des 14 dernières confrontations en Ligue 1, 7 défaites et 6 nuls. En élite, l'ASVEL a battu le Portel 85 à 70 à l'Astrobal. Villeurbanne terminera la saison régulière à la 3e place en cas de victoire le 11 mai à Roanne. Et puis le casque de Dark Vador sera prochainement exposé au sein du musée cinéma et miniatures. Annonce faite samedi à l'occasion de la journée dédiée à Star Wars. Le 15 juin, un des casques originaux de Dark Vador, épisode 5 L'Empire contre-attaque, sera exposé dans le musée du Vieux Lyon. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.